Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Il y a deux semaines, je vous le rappelle, nous évoquions la question de l'identité de l'Europe à l'occasion du Brexit britannique, c'est-à-dire du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Qu'on le veuille ou non, l'idée européenne est inséparable du christianisme. Je vous propose aujourd'hui de continuer en faisant l'examen de l'esprit européen et de sa traduction politique. Comment le continent cherche-t-il à s'unifier et vers quoi tend ce projet? Deux avenues s'offrent ou deux tentations, l'Empire façon romain, ou l'Europe des nations. Retour avec Pierre Norris, étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et chroniqueur. Pierre, bonjour.
Bonjour.
On reste encore un petit peu en Europe parce que c'est un sujet, on a commencé donc il y a deux semaines, c'est un sujet qui est vaste, c'est pas juste un simple sujet local, donc ça nous fera du bien d'en savoir un peu plus de votre bouche. L'année dernière, il y a deux semaines, donc vous parliez de la séparation, donc du Brexit, et qui forcément force à réfléchir.
En effet, puis c'est même ce serait aujourd'hui la troisième chronique consécutive sur l'Europe. On avait parlé du Brexit lors de mon avant-dernière chronique. On voyait à ce moment-là quels étaient les défis auxquels fera face l'Union européenne, disons à moyen et long terme, à savoir ceux du choix de la langue commune. Est-ce que l'anglais va rester prédominant maintenant que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union? Ensuite, quel sera le degré d'autonomie face aux États-Unis? Et quel sera l'avenir aussi de l'intégration des pays membres de l'Union en matière de finances publiques, de défense et de politique étrangère. Mais on avait jugé bon pour comprendre ces défis-là, de prendre un peu de recul ou de hauteur pour étudier l'esprit européen en général. Qu'est-ce qui inspire l'idée européenne? Au-delà même du projet politique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient relier les peuples européens ensemble? Donc, on avait commencé ça il y a deux semaines,
et je crois qu'on peut
poursuivre aujourd'hui.
Une question pianoriste. Oui. L'Europe, ça va jusqu'à Moscou et la Géorgie, je crois que c'est Tbilissi. L'Europe, on parle de l'Europe de l'Ouest qui peu à peu a englobé l'Europe centrale, la Russie, le Belarus, tout ça sont européens mais n'ont pas cet esprit européen. Il faut quand même préciser.
Oui, en effet, il y a une espèce de flou aussi sur les limites exactes de l'Europe, d'accord, ce qu'on entend là-dessus. Si bien sûr on veut parler strictement en termes géographiques, oui, il y a une Russie européenne, le continent européen s'étend jusqu'au mont Oural. Mais au niveau culturel, au niveau civilisationnel, disons, les Russes, disons qu'il y a une espèce de... Il y a un pôle de civilisation, oui, autour de la Russie, un monde orthodoxe, slave, qui est à cheval entre l'Europe et l'Asie. C'est un monde en soi qui, en effet, est pas... Qui a bien sûr des liens avec ce qui va se faire dans le reste du continent européen, mais c'est quand même un monde à part.
Vous disiez donc il y a deux semaines qu'il y avait deux. En fait, il y a deux idées de l'Europe, une idée d'humanisme, des Lumières, de la rationalité, de la liberté, etc. Mais il y a aussi l'Europe du Moyen-Âge, l'Europe chrétienne. Ce sont deux visions qui s'affrontent?
Oui, qui s'affrontent. On peut essayer de les opposer, mais on peut aussi essayer de les réunir. Oui, parce que d'une part, il y en a plusieurs qui vont définir l'idée européenne, l'esprit européen par un certain humanisme. On va parler des droits de l'homme, la primauté de la raison, le goût des lettres, la science, la connaissance. On va aussi parler beaucoup d'un souci d'accorder la l'égalité et la liberté, la démocratie. Donc, l'Europe, ce serait ça, et cet esprit humaniste-là, il prendrait ses racines dans l'Antiquité gréco-romaine, chez des penseurs de cette époque, puis dans la Renaissance et le siècle des Lumières, quand on aurait voulu renouer avec l'esprit des penseurs antiques. Mais cette lecture là, qui est strictement humaniste, on avait vu qu'elle oublie en bonne partie ce que l'Europe et cet humanisme-là lui-même, ce qu'il retire du christianisme. C'est l'Église qui a permis de sauvegarder et de transposer dans le monde moderne la pensée et l'héritage antique après la chute de l'Empire romain en 476, et ensuite tout au long du Moyen Âge. Et ça, c'est donc non seulement l'Église a perpétué ça, mais l'Église a aussi sa propre contribution positive. Elle a pas seulement préservé, elle a fait des choses. L'Église, on oublie parfois à quel point l'Église a joué un rôle absolument structurant. Autant par la foi chrétienne que par les institutions cléricales, dans le façonnement de nos institutions et de nos idéologies modernes. Je dis on parce que c'est vrai pour l'Occident en général, même si aujourd'hui on parle spécifiquement de l'Europe, là, mais c'est vrai pour l'Occident en général.
Donc on ne peut pas faire un trait et biffer la mention chrétienne, du moins dans l'inspiration de l'Europe, et même dans l'univers symbolique de l'Union européenne aujourd'hui, je veux dire, du moins à sa fondation dans les années 50, je veux dire, il y avait quand même un esprit chrétien, non?
Oui, c'est indéniable que ça en faisait partie. Les hommes politiques de cette époque qui ont commencé à créer l'édifice européen, c'était pas l'Union européenne dès le départ, là, ça a connu plusieurs visages. Ces gens-là, on les appelle les pères de l'Europe. Et bon nombre, pas tous, mais bon nombre des pères de l'Europe étaient issus des partis démocrates chrétiens. Que ce soit en France, en Allemagne ou en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, c'était au départ on parlait de l'Europe des Six. Oui, plusieurs des politiciens impliqués là-dedans, ils étaient démocrates chrétiens. Et on le voit aussi même dans le drapeau actuel de l'Union européenne, ce drapeau bleu avec les 12 étoiles, de l'aveu même du créateur de ce drapeau-là. Les étoiles, les 12 étoiles, elles renvoient aux 12 étoiles de la médaille miraculeuse de la Vierge.
Ça,
Mais
c'est la médaille de Catherine Labouré, Sainte Catherine Labouré, à l'origine, tout à fait.
Il y a aussi un débat là, concernant les origines exactes du drapeau européen, de sa signification. C'est pas tout le monde qui dit que ça a des racines chrétiennes, mais le créateur même du drapeau dit qu'il s'est inspiré de la médaille miraculeuse.
Dans sa structure, l'Union européenne n'épouse-t-elle pas une certaine structure ou un esprit de fonctionnement de l'Église?
Oui, certainement. On parle souvent depuis quelques années du rôle important et structurant que joue l'Allemagne dans l'Union européenne. L'Allemagne a beaucoup inspiré les institutions européennes. Et tout ça, cette idée d'une société décentralisée où il y a plusieurs paliers politiques, plusieurs niveaux politiques, ben, en fait, et il y a avec ça cette idée que les différents pouvoirs doivent être effectué par l'échelon politique qui serait le plus bas possible au regard des besoins et des réalités. On parle dans ce cas-là du principe de la subsidiarité qui est fondamental dans l'Union européenne, mais ce principe-là de la subsidiarité, il est fondamental dans la pensée catholique. C'est l'un des piliers de la doctrine sociale de l'Église dans sa recherche d'un équilibre entre le tout à l'État du socialisme et le tout au marché du capitalisme. L'Église, à la fin du 19e siècle, s'est mise à parler du principe de subsidiarité. Et ça, oui, ça fait partie des principes fondamentaux de l'Union européenne.
Pierre Norris, vous nous parlez de l'esprit européen, ceci à la suite du Brexit qui force à re-réfléchir à l'essence et à l'avenir de l'Union européenne. Les pères de l'Église, bon, beaucoup étaient du parti démocrate chrétien, mais d'autres étaient
Les
socialistes,
pères de l'Europe, vous voulez
matérialistes.
dire?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Les pères de l'Église.
Je vais aller voir le psychanalyste. Les pères de l'Europe, oui. Allez-y, Pierre, oui.
Oui, en effet, ils n'étaient pas tous démocrates chrétiens. Euh, quand, quand on dit que l'Europe et disons l'esprit européen doit beaucoup au christianisme, c'est en effet inséparable du christianisme, mais que ce soit par le christianisme ou contre lui, parce que on l'a vu avec la vision humaniste un peu plus tôt il y a 2 semaines. Il y a beaucoup aussi de pères de l'Europe qui n'étaient pas démocrates chrétiens, il y en a beaucoup qui étaient issus des différents partis socialistes ou sociaux-démocrates, qui eux se tournaient plutôt vers une vision matérialiste et anticléricale de la société. Et
On
on
dirait
voit
que
aujourd'hui.
cette
Oui, allez.
vision domine aujourd'hui, il me semble. Non, les Européens ont refusé la mention chrétienne
En
des racines de
effet.
l'Europe.
Exactement. Et oui, ben, cet humanisme-là auquel il se réfère, ben, et le progressisme qui va en bonne partie avec, ben, ce progressisme-là, cet humanisme-là se détache de plus en plus du christianisme qui les a en bonne partie inspirés. Et en effet, l'Union européenne a refusé d'inscrire officiellement la mention de l'héritage chrétien de l'Europe. Au moment où l'Union débattait d'un traité sur la Constitution européenne en 2004, traité qui n'entrera finalement pas en vigueur, la France l'avait refusé par référendum en 2005, mais au moment où on discutait de ce traité-là, le pape Jean-Paul II avait proposé d'inscrire l'héritage chrétien de l'Europe dans la Constitution, et ça avait été refusé par un bon nombre de pays, pas par tous, mais plusieurs pays, notamment la France, avaient refusé d'inscrire l'héritage chrétien dans la
Pierre
Constitution.
Norris, il nous reste 9 minutes. Maintenant, on a bien dépiauté l'esprit européen, le passé, les racines, l'univers symbolique, les idées qui circulent. Pas une opposition, mais il y a deux façons. L'Europe médiévale qui doit beaucoup à l'Église et l'Europe de la Renaissance ou l'Europe de l'Antiquité qui doit à la Rome et à la Grèce antique. Maintenant, que l'Angleterre n'est plus là, et fort de ce que vous avez dit, comment est-ce qu'elle se projette? Comment est-ce qu'elle peut concevoir son union, justement? J'avais dit en introduction qu'il y avait deux tentations, l'empire, façon romaine, ou la nation. Voilà deux pôles qui s'annoncent.
Oui, parce que bon, que les peuples d'Europe se sentent tous européens, qu'ils sentent qu'ils aient une relative communauté d'esprit d'affinité entre eux, ben c'est louable et c'est une chose. Mais à quel point cet esprit-là doit déboucher sur une unité politique, c'est ça le grand débat depuis très longtemps déjà. Et bon, oui, vous le dites, il y a deux choix en fait, c'est l'empire ou la nation. Par empire, c'est en fait, c'est peut-être l'autre nom qu'on peut donner au fédéralisme européen. Ce projet d'une Europe fédérale où les États, dans lequel les États membres renonceraient à leur souveraineté et tous ces peuples-là seraient réunis sous une même autorité centrale, avec bon, les anciens États deviendraient des États fédérés ou des provinces pour reprendre le langage canadien. Et bon, oui, l'Europe serait comme ça une collection de peuples et de nations très divers, selon plusieurs degrés d'intégration et d'autonomie, mais réunis sous une même autorité centrale. Et ben oui, ça, en fait, on parle de fédéralisme, mais c'est pas autre chose que le nouveau visage de l'Empire. Et
De
pour ça,
l'Empire, mais il y a... Pardon, mais je disais l'Empire romain, mais il y a aussi le Saint-Empire romain germanique, il y a l'Empire austro-hongrois, il y a l'Empire. L'Europe a connu plusieurs empires. De quel empire parle-t-on ici?
Oui, bien, c'est que je crois qu'il y a. Si on étudie l'histoire de l'Europe, on voit que depuis la chute de l'Empire romain, l'histoire européenne est marquée par diverses tentatives d'essayer en quelque sorte de le recréer ou d'essayer de réunir à nouveau le continent sous une même autorité, en respectant toujours un peu ici et là les autonomies, les particularités locales, mais il y a quand même toujours cette idée d'en venir à unifier le continent autant que possible. Ça a connu, ça s'est fait de plusieurs manières très différentes les unes par rapport aux autres. Voilà, le Saint-Empire romain germanique, c'est une chose. L'Empire napoléonien, c'est une autre façon de faire ça aussi. Puis même en remontant au Moyen Âge, l'Empire carolingien de Charlemagne.
L'Empire byzantin, on n'en parle pas.
Oui, en effet. Mais Bon, en tout cas, c'est ça. On pourrait lister encore le nombre de fois où l'Europe a été unifiée ou l'Europe où il y a eu des projets d'unifier l'Europe. Et bon, oui, l'Union européenne, bien sûr, elle le fait pas de la même manière. L'Union européenne le fait par le droit, par la décision souveraine de ses membres de délester toujours plus de leurs attributs souverains. Mais on peut néanmoins, je pense, y voir un projet impérial. Ses limites sont floues, comme si l'Empire européen était constamment appelé à s'étendre. On voit pas un peu c'est où les limites de l'Europe. C'est comme si l'Union va constamment s'étendre. Et le pouvoir européen central aussi, il se joue des diversités locales et régionales. Il mise sur elles pour fragiliser les États-nations qui sont encore à assez fort pour tenir un peu Bruxelles en respect. Et à tout ce sujet-là, pour faire un parallèle, disons, entre le fédéralisme et l'Empire, j'inviterais les auditeurs à consulter l'ouvrage qui a été publié récemment par le Marc Chevrier, professeur de sciences politiques à l'UQAM, L'Empire en marche, qui étudie ce phénomène-là, notamment en regard de ce qui se passe au Québec et au Canada, mais qui touche aussi à la question européenne.
Oui, ben, Ottawa, c'est le nouveau Bruxelles, si j'ose dire. On veut centraliser davantage, retirer aux provinces certains, tout en leur accordant des champs de compétences, mais en même temps, le pouvoir de dépenser, c'est surtout Ottawa qui l'a. On le voit d'ailleurs avec la pandémie. Ça, c'est la tentation impériale. Il y a eu plusieurs formes d'empire dans l'Europe au cours des 2000 ans, à commencer par l'Empire romain. L'autre voie, c'est l'Europe des nations. Donc là, on parle de davantage de décentralisation, Pierre Norris?
Décentralisation ou plutôt de préserver l'idée que l'Europe, c'est pas quelque chose qui doit être construit d'en haut par-dessus les nations, mais bien que s'il doit y avoir une relative unité européenne, ça doit être par l'alliance et le rapprochement systématique des nations dans le respect et le maintien de leur souveraineté et de leur identité. Donc, et ça part du fait que, ben, qu'on le veuille ou non, l'Europe, elle s'est stabilisée et formée autour de l'idée nationale. Bon, là, c'est sûr qu'au
C'est
20...
drôle, pardonnez-moi, mais nation vient de nascere en latin, qui veut dire naître. Donc on part du bas, en fait, vers le haut.
Exactement, très juste. Et ben, c'est sûr aussi que les tenants du fédéralisme européen vont se tourner vers les horreurs du 20e siècle pour faire le procès de la nation. Et bon, c'est une critique qui est très répandue, mais je pense qu'il est néanmoins erroné. Parce
Ben surtout
que.
chez les élites bien libérales et bien ouvertes et bien tolérantes. J'ai l'impression qu'ils se pincent le nez en disant nation, parce qu'évidemment, il y a eu Hitler, il y a eu Staline, il y a eu Mussolini, etc.
Exactement.
Oui,
Bon,
d'accord.
c'est sûr que la nation, comme toute création humaine, est susceptible de servir au meilleur comme au pire.
Forcément.
Mais un nationalisme exacerbé, c'est vrai, a pu peut-être faire le lit des guerres du 20e siècle en Europe. Mais il faut pas oublier néanmoins que c'est contre les nations qu'on a vu se lever l'impérialisme raciste de l'Allemagne nazie. La nation qui repose sur un territoire défini avec une mémoire partagée n'a rien à voir avec le racialisme suprémaciste de l'Allemagne nazie qui avait pour projet d'occuper le monde entier. Et la nation, c'est aussi contre elle qu'on a vu se lever le socialisme communiste en URSS avec la lutte des classes internationales et les goulags. Et à l'inverse, c'est au nom de la nation qu'on liait intimement au christianisme, à la démocratie et à la liberté, qu'on a vu les De Gaulle, Churchill et autres, qu'on les a vus galvaniser leur peuple.
Mais Pierre Norris, il nous reste 2 minutes, mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler de patrie? Je crois que c'est De Gaulle qui disait que être nationaliste, c'est détester les autres nations, être patriote, c'est aimer sa propre patrie et par ricochet, les autres aussi.
Oui, bien, on peut débattre. Il y a de longues discussions là-dessus sur le sens précis des termes patrie, nation, patriotisme et nationalisme. Il reste dans tous les cas que les États européens sont structurés, même si ça ne correspond pas ou très rarement, très spécifiquement à des nations si on les définit culturellement. L'Europe. Les pays européens, les États européens sont quand même formés autour de l'idée nationale. Et ces nations-là, dans leur diversité, constituent l'Europe. Et vous parliez de Gaulle. Ben, c'est De Gaulle aussi qui disait en entrevue, et là je vais le citer, Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé écrit en quelque espéranto ou volapük intégré.
Et voilà Pic, oui, de Gaulle. Oui, en 1 minute, Pierre Norris, le départ du Royaume-Uni, avec comme le sens de ce départ, c'est que le Royaume-Uni ne se reconnaissait plus dans la volonté impériale européenne.
Je le crois. Si le Royaume-Uni, qui est, oui, un des piliers de la civilisation européenne, mais si le Royaume-Uni
Oui.
a néanmoins quitté l'Union, ben oui, c'est probablement parce que le Royaume-Uni ne se reconnaît plus, ne se reconnaissait plus dans cette Europe de plus en plus fédérale. Le Royaume-Uni était attaché à une Europe des nations et les Anglais ne sont pas les seuls à s'en plaindre. On a vu un peu partout sur le continent des mouvements électoraux et
15 secondes.
populaires et les élites européennes ne peuvent pas continuer à les ignorer. Elles doivent, sinon tout risque de leur sauter à la figure si elles ne se réconcilient pas avec cette idée-là, cette idée que, ben oui, on peut viser l'universel, mais c'est uniquement à partir du particulier qu'on peut
Donc,
vraiment
dans
y arriver.
l'incarnation, ce qui est une idée très chrétienne. Pierre Norris, vous nous
Exact.
parliez donc de l'esprit européen. On vous retrouve dans 2 semaines.
Oui, avec plaisir.
Merci infiniment, Pierre. Voilà qui clôt l'émission. Demain, portrait de Saint Cyril et Méthode, copatron de l'Europe et apôtre des Slaves. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.